Bienvenue, bonjour à tous.
Bonjour.
C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin et de vous revoir et de pouvoir regarder ensemble la bonne parole de Dieu. Donc, on va regarder, on va continuer à regarder au niveau de l'Église d'Éphèse, que Dieu travaille dans l'Église d'Éphèse, et on va continuer à regarder à travers Timothée. On y arrive. Puis on va regarder les dernières recommandations que Paul a faites à Timothée. Mais avant de rentrer dans le sujet, on va se courber dans un mot de prière. Eh bien, Père éternel, Seigneur grand Dieu, on vient devant toi pour parce qu'on veut dépendre de toi. Seigneur, on te prie d'enlever toute préoccupation qu'on pourrait avoir à l'esprit et que tous nos cœurs puissent être concentrés sur ce que tu as à nous dire ce matin. Père, grave ta parole dans nos cœurs, qu'on puisse la serrer afin de ne pas pécher contre toi et éclaire-nous ce matin par ton esprit. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Pour ta gloire. Amen. Donc, ce matin, on va regarder le deuxième épître de Timothée, de Paul à Timothée. Donc, 2 Timothée. Et on va faire un survol des 4 chapitres de 2 Timothée. Le but de cette lettre, c'est de donner les dernières instructions. Ça va être les dernières instructions, c'est la dernière fois que Paul va écrire à Timothée. Il va y donner ses encouragements, des instructions et aux responsables, à Timothée et aux responsables de l'Église d'Éphèse. Cette lettre-là a été écrite vers l'an 66 ou 67 après Jésus-Christ. Le contexte, pour regarder, Paul est dans son deuxième emprisonnement. Et il est dans une prison de Rome. La semaine passée, Matthieu nous a parlé de la première emprisonnement de Paul comme quoi que Paul n'était pas en prison, mais qu'il était assigné dans une maison, il ne pouvait pas sortir. Mais il a écrit sa lettre dans une maison. Mais là, cette fois-ci, Paul, il est dans une prison et je vais vous dire, à l'époque, ces prisons-là, ce n'est pas des prisons confortables comme on a aujourd'hui. Paul désire passer le flambeau à la génération suivante, aux responsables dont Timothée faisait partie. Et on peut voir ça dans le deuxième chapitre de 2 Timothée, au verset 2. Il dit, « Est-ce ce que tu as entendu en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. » On voit là déjà qu'il veut que ça soit transmis à des hommes fidèles, mais qu'il soit capable aussi de l'enseigner à d'autres. Donc, ce n'était pas juste des hommes fidèles qui ils venaient à la synagogue ou qui étaient là dimanche après dimanche, mais c'était des hommes capables aussi de l'enseigner. Puis, il profite aussi pour demander à Timothée de lui faire parvenir des parchemins, son manteau qu'il avait oublié, d'apporter, puis qu'il puisse les donner à ceux qui viendraient le visiter. La particularité de cette lettre, c'est que c'est la dernière que Paul va écrire à Timothée. Et dans cette lettre, on voit le cœur. On voit le cœur de Paul dans cette lettre. Puis ses priorités. Donc, il veut qu'il y ait la doctrine saine, une saine doctrine qui soit enseigner. Une foi ferme. Parce qu'on sait que Paul, il a été persécuté, et là, Paul a besoin d'encourager Timothée, qui lui semble être découragé. Donc, une foi ferme. Sois ferme dans ta foi. Une persévérance confiante. Être persévérant, être confiant que Dieu prend soin de nous, que Dieu s'occupe de nous, même dans les temps difficiles. Puis avoir un amour durable. On voit le cœur de Paul. Un amour durable, pas un amour conditionnel, mais un amour qui continue même quand c'est difficile, mais un amour pour la parole de Dieu. Vous savez, lorsqu'une personne célèbre et influente est à son chevet et est au seuil de la mort, les dernières paroles, bien, on les écoute. On peut les écouter parce qu'elles sont importantes pour nous. C'est des paroles de sagesse. Cette personne-là, c'est une personne qu'on écoute, qui est appréciée. L'apôtre Paul était un de ces hommes-là. L'apôtre Paul, c'était un homme instruit, mais c'était un homme très considéré à l'époque et un des plus influents et des plus aimés de l'histoire. Et en plus, nous, on a un privilège. Nous, on connaît les dernières paroles de Paul. Donc, Paul était au seuil de sa mort. Ça, on voit ça toujours dans 2 Timothée, chapitre 4, les versets 6 et suivants. « Car moi, je sers déjà de libation. Le moment de mon départ approche. » Là, c'est pas parce qu'il s'en va ailleurs, mais il s'en va dans sa demeure éternelle. Il sent ça venir. Il dit, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc là, Paul, il annonce sa mort. Un peu comme Jésus, quand il était le dernier repas avec ses disciples, qui annonçait sa mort à venir. Mais Paul annonce sa mort, mais c'est une mort qui va être assez drastique. Mais il va mourir pour l'Évangile. Puis Paul, là, il n'était pas dans un hôpital confortable, puis suite à une maladie, puis entouré des membres de sa famille. Non, il était seul. Il était dans une prison humide, sombre et tout ça. Puis il avait juste ses papiers pour écrire, ses parchemins pour écrire, et quelques visiteurs sporadiques qui pourraient venir. Et le message que Paul tente de transmettre à l'Église de à Timothée et à l'église d'Éphèse en même temps, est divisé comme en deux volets. Premièrement, les fondements du service chrétien, on peut voir ça dans les chapitres 1 et 2, et les difficultés du service chrétien, en partie dans le chapitre 2 et aussi chapitre 3 et 4. Fait que ça, c'est un peu le plan. Mais ce que j'aimerais vous suggérer ce matin, c'est qu'on regarde cette lettre en entier, mais avec les quatre points suivants qu'on va survoler. Donc, premièrement, la persévérance de l'homme de Dieu. Ça, on va voir ça dans le chapitre 1. Et deuxièmement, des modèles à suivre pour l'homme de Dieu. Troisièmement, les dangers que court l'homme de Dieu. Et quatrièmement, la prédication de l'homme de Dieu. Donc, si on regarde la première partie, donc au niveau des fondements du service chrétien, on voit premièrement Paul commence sa lettre avec l'affection qu'il démontre envers Timothée. On voit ça au chapitre 1, dans les versets 1 à 5. Hein. Si on regarde le verset 2, Paul appelle Timothée son enfant bien-aimé. Mais est-ce que c'est vraiment son enfant de chair? Non, c'est son enfant spirituel. Paul a investi tellement de temps dans Timothée, qui le considère comme son enfant bien-aimé. Au verset 3, Paul se souvient continuellement de lui dans ses prières. Hein? Il se souvient de Timothée dans ses prières. Il prie pour Timothée. Et au verset 4, Paul se rappelle des larmes de Timothée. Timothée pleure, il est triste, il trouve ça dur, le service. Puis on va voir ça un peu plus loin, là, pourquoi. Puis Paul désire le voir, Timothée, puis être rempli de joie. Paul a tellement investi de temps et d'efforts à enseigner Timothée, son protégé, qu'il le considère comme son propre enfant. Même en prison, Paul pense à Timothée, et puis il pense surtout à l'encourager. Si on regarde un peu un exemple avec nos familles, hein, pour ceux qui, comme moi, ont des enfants, un ou des enfants, on peut comprendre Paul au niveau de sa relation parent-enfant. On investit tellement de temps dans nos enfants que peu importe ce qu'ils vivent, ça nous affecte. On veut prendre soin d'eux, on veut s'informer d'eux. Puis, comme Timothée était découragé, mais comme quand nos enfants sont découragés, on veut encourager nos enfants. Même quand ils pleurent, tout ça difficile, on cherche à les encourager. On veut prendre soin d'eux. On veut pas qu'ils. Moi, ça me fait penser à notre fille Sarah, qui s'est mariée il y a un peu plus d'un an. T'sais, on l'avait à la maison et tout ça, puis. On s'inquiétait d'elle quand on voyait qu'elle n'était pas dans son état normal, parce qu'on connaît quand nos enfants, ça va bien, mais quand on voit même, des fois, ils n'ont pas besoin de rien dire, puis on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. On veut prendre soin d'eux, on s'intéresse à eux. Un coup qu'ils sont partis de la maison, on ne s'en occupe plus. Non. Je pense qu'on s'inquiète encore davantage. On veut s'assurer qu'ils sont bien. Mon épouse et moi, là, j'avais tendance à dire un peu plus mon épouse, mais je me rends compte que moi aussi, on cherche les occasions de les voir. On les invite à la maison. Hey, qu'est-ce que vous faites dimanche après-midi? Venez-vous dîner à la maison? Ou il y a un soir cette semaine que vous pouvez venir manger? Et ça, en même temps, c'est un prétexte pour voir comment est-ce qu'ils vont. Prends soin d'eux. Là, le déménagement s'en vient. Comment est-ce que vous êtes là? Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce qu'on peut vous aider là-dedans? On se sent disponible. On veut prendre soin de nos enfants. Et plus on investit du temps, plus on veut les aimer. Encore, de la meilleure façon, on veut les aider, on veut prendre soin d'eux. C'est la même chose à l'Église Emmanuel. L'Église Emmanuel, des fois, on va avoir des gens qui vont venir nous voir, comment ça va? C'est pas parce que les gens veulent s'introduire dans nos vies. On est une famille, on veut prendre soin des uns des autres. On est une grande famille, la famille de Dieu, on est frères et sœurs. Est-ce qu'on oublie ça, qu'on est des frères et sœurs? Est-ce qu'on est des frères et sœurs le dimanche matin, de 9h? À midi, midi et demi, des fois à 1h pour ceux qui jasent plus longtemps. Non, même dans la semaine, un coup de téléphone, hey, comment ça va? Un frère ou une sœur qui vit des moments difficiles, qu'on est au courant, on s'informe, on s'inquiète, on prie pour eux. C'est ce que Paul fait envers Timothée. Fait que l'Église Emmanuel n'est pas différente de l'Église d'Éphèse. Et c'est ça que on regarde l'Église d'Éphèse avec le parallèle de l'Église Emmanuel, parce qu'on va célébrer nos 40 ans au mois de septembre. On va célébrer la fidélité de Dieu à l'Église Emmanuel. Mais Dieu était quand même fidèle, il était aussi fidèle avec l'Église d'Éphèse, il était aussi fidèle envers Timothée qu'il l'était envers Paul. Paul, Dieu est un Dieu fidèle. Et c'est intéressant parce que cette semaine, s'il y en a qui sont dans le programme de mémorisation de versets, mais si vous ne l'êtes pas, vous avez manqué quelque chose. Parce que c'était Lamentation 3, 22 à 23. Hein? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et ça termine, « Oh, que ta fidélité est grande! » Donc, la fidélité de Dieu est grande, puis elle est permanente. Dieu ne change pas. Et dans le chapitre 1, Paul veut que Timothée se rappelle l'enseignement qu'il a reçu et de qui il l'a reçu. Il l'a déjà reçu premièrement de sa mère, Eunice, qui, elle, l'a reçu de sa mère, Loïs. Donc, de génération en génération, l'Évangile a été transmis, la parole de Dieu a été transmise chez Timothée. Et en plus, Paul a pris Timothée sous son aile pour le faire grandir dans son ministère. Et c'est un peu comme Nicolas n'est pas là, mais j'avais dit que je parlerais de lui. Je l'ai vu hier à l'Assemblée générale de l'Association de l'Évêque, et j'ai dit que je parlerais de lui ce matin. Et on peut prendre Nicolas, mais je vais le prendre sur le côté paternel. Nicolas a reçu l'enseignement de son père, Danny, a reçu l'enseignement de Danny. Et Danny l'a reçu de son père, Marcel. Donc, ça a été transmis de génération à génération. Et ultimement, c'est reçu de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Et je suis certain que Danny et Christiane s'informent, sont inquiets. Comment va Nicolas, sa famille, comment est-ce qu'il va? Donc, puis je suis certain qu'ils prient pour eux. Donc, ils prennent soin, on prend soin de nos bien-aimés. Mais Paul aussi écrit à Timothée pour l'encourager à persévérer. Parce que c'est difficile, il y a des moments difficiles dans la vie, dans le service et tout ça, que ce soit même avec notre famille, notre travail, on peut avoir des problèmes de santé, on peut avoir avec nos enfants, il y a différentes choses, et même dans notre ministère, dans notre service, on peut avoir des difficultés. Et Paul veut encourager Timothée à persévérer, même dans des moments difficiles. Paul peut faire ça parce que Paul a vécu des moments difficiles. Il a été persécuté. Même là, il est en prison pour sa foi. Mais Paul, ça n'empêche pas de persévérer puis d'écrire pour encourager. Dans les versets 6 et 7 du chapitre 1, Paul exhorte Timothée à ranimer le don de Dieu qu'il a reçu de ses mains, les mains de Paul. Les versets 8 à 10, il encourage même à prendre courage et à souffrir avec Paul pour l'Évangile. Parce que c'est souffrant. On est persécuté. Tu sais, des fois, on témoigne dans nos familles, puis avec nos amis, puis on est rejeté, puis tout ça. On ne peut pas dire qu'on est vraiment persécuté comme Paul l'a été. Paul a été vraiment persécuté. Et là, même sa vie tire à sa fin à cause qui annonce l'Évangile, à cause de sa foi ferme dans l'Évangile. Puis Paul, lui, en même temps, il veut donner des expériences, des exemples de persévérance. Paul lui-même, il se donne en exemple. Il dit que Paul souffre, mais il n'en a point honte. Il sait en qui il a cru. Il s'appuie sur la puissance de Dieu, dans les versets 12 à 14. Et dans les versets 15 à 18, on voit aussi qu'il parle d'Onésiphore. Hein? Onésiphore, même s'il sait que Paul est en prison, Onésiphore cherche à voir Paul. Il le cherche avec beaucoup d'empressement. Il veut rencontrer Paul. Donc, Timothée est jeune, peut-être au milieu de la trentaine, mais il n'est pas pris au sérieux à cause de son jeune âge. Souvent, hein, on pense que des fois un adolescent ou quelque chose comme ça, ou un jeune homme, ben il a moins d'expérience. On peut en prendre ton père dessus. Mais Paul dit à Timothée, décourage-toi pas. Il y a un verset qui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que qui prend soin de Timothée? C'est Dieu qui prend soin de Timothée. C'est Dieu qui a mis Timothée là, par la main de Paul, en charge de l'Église d'Éphèse. Et il y a aussi, Paul donne des exemples de modèles à suivre. Là, il a donné des exemples de persévérance, mais aussi des modèles à suivre pour l'homme de Dieu. Et ça, on voit ça dans le chapitre 2. Donc, les versets 1 à 2, Paul, il dit, « Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Donc, on voit que Paul encourage à former des disciples, à ne pas chercher à tout faire par lui-même, de peur qu'il s'épuise, qu'il se décourage. C'est ça qu'on peut appeler la relève. Hein? On entend ça souvent, préparer la relève. On entend ça dans l'Église. Préparer la relève. C'est un peu comme une équipe de hockey. Hein? Une équipe de hockey, il y a plusieurs joueurs dans une équipe, mais seulement 5 joueurs qui sont sur la patinoire, en plus du gardien. Mais les autres restent sur le banc. Pourquoi? Pour remplacer quand les autres sont fatigués. Puis ils sont tous capables de faire le même travail que les autres. Donc, c'est des hommes capables, enseigne-là des hommes capables de faire le même job que toi. Donc, on voit ça hein, dans les équipes de hockey.
Paul, c'est la même chose à Timothée. Timothée a pris la relève de Paul qui était...
Exactement. Fait que Paul a transmis à Timothée, il a laissé Timothée à Éphèse, et Paul est maintenant à Rome dans une prison, mais le travail se fait encore à l'Église de Père parce qu'il a donné ça à Timothée. Et il veut encourager Timothée, malgré les temps difficiles. Puis, c'est pas différent ici à l'Église Emmanuel. On prépare la relève. On essaie de trouver des hommes pour alléger la tâche aussi. Moi, je regarde, on prend juste Danny. Danny, c'est lui qui est là dimanche après dimanche, après dimanche, après dimanche. Et là, maintenant, je vois là, qu'il prend un Roy, il prend un Yvon, il prend un Pierre. Et maintenant, je suis rendu dans l'équipe. Il y a un Mathieu qui est venu la semaine passée. Et il s'allège la tâche. Et c'est allégeant même pour nous. C'est un exemple pour nous. Parce que nous, s'il fallait qu'on prenne la relève, bien, être là dimanche après dimanche, on pourrait être un peu essoufflé. Surtout que Roy, il enseigne la classe des aspirants membres. Donc, en plus, ça en fait beaucoup. Donc, Paul, il encourage Timothée à préparer la relève ou à alléger sa tâche. Donc, Paul se cite en exemple et il donne aussi l'exemple d'un soldat. Hein? Un soldat, ça souffre. Hein? Ça ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le verset 5, hein, à un athlète. Hein? Un athlète, là, ça s'entraîne. Mais quand ça s'entraîne, un athlète, au début, il y a des moments difficiles. Est-ce que ça tombe, un athlète? Oui, mais ça se relève. Il persévère, il continue. Finalement, bien, il sera aux Olympiques. Et ultimement, il pourrait avoir une médaille. Mais c'est l'entraînement. Un athlète, ça va être souffrant aussi, parce qu'il y a des rigueurs qui sont là. Un laboureur. Jardinier, mais un laboureur, un champ, qui cultive son champ. Premièrement, il n'arrive pas au printemps, puis il plante ses semences, puis non, il se lève tôt, le tracteur, et il tourne sa terre, il prépare sa terre pour qu'elle soit bien aérée. Et en plus, on met de l'engrais. Avez-vous passé dans des régions rurales? Ça sent la campagne, comme on dit. Hein? Des bonnes odeurs de campagne. Donc, l'engrais, le laboureur engraisse sa terre. Après ça, il sème. Après ça, il entretient, il met de l'engrais. Puis après ça, il est patient, il attend la récolte. Fait qu'on récolte des fruits, mais avec patience, persévérance, on travaille. Et aussi, comme il donne Jésus en exemple, un exemple de fidélité. Jésus est fidèle. Il donne l'exemple d'un ouvrier, un homme éprouvé qui n'a pas à rougir devant Dieu, qui dispense droitement de la parole de vérité, versets 14 à 19. Verset 20 à 23, un vase. Il y a différentes sortes de vases, des vases d'or et d'argent, versus des vases de bois et de terre, qui sont d'un usage vil qu'on voit, hein, qui sont moins utiles, moins de considération. Un serviteur. Être condescendant, hein? être propre à enseigner, doué de patience, redresse avec douceur les adversaires pour les conduire au salut. Mais je rajouterais peut-être moi-même, parce qu'il ne faut rien rajouter à la parole de Dieu, mais je dirais, un serviteur doit être aussi enseignable. Parce que ça, c'est... Il faut être enseignable aussi, parce que on peut faire des erreurs, on peut se tromper, il faut les reconnaître. Puis s'il y a quelqu'un qui nous vient nous voir, comme moi, le Danny, là, il prend des notes. J'ai envoyé mes notes, moi, avant d'arriver ici ce matin, il a tout revisé mes notes, il m'a envoyé des petits conseils, on s'est parlé au téléphone même encore hier soir. On a besoin d'être enseigné, on a besoin d'être coaché, on a besoin d'être aligné pour être sur la bonne voie. Mais comme j'ai mentionné, dans notre service, il peut y avoir des difficultés, comme on l'a vu avec Paul. Et une des difficultés qu'il rencontrait à l'époque, c'était la confrontation avec l'apostasie. Au verset 1, il dit qu'il va y avoir des temps difficiles. Les hommes vont être égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu et ayant l'apparence de piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Ah, mais ça, c'est juste que ça se passait juste à... dans le temps des prêtres, dans le temps de Timothée. Hein? Ça ne se fait pas aujourd'hui, ça. Hein? Il n'y a pas ces comportements-là aujourd'hui. Non, il n'y en a pas aujourd'hui de ça?
Non, on fait exactement la même chose.
On fait exactement la même chose.
Même pire.
Hein? Le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Hein? Sans Dieu, on est voué à faire ces choses-là. Et même des fois avec Dieu, l'ennemi, là, aujourd'hui, la société, là, a beaucoup d'attrait, hein? Beaucoup d'attrait. Mais la parole de Dieu devrait être notre trésor. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, la parole de Dieu, l'Évangile, c'est là qu'on devrait se concentrer. On va voir ce point-là un peu plus tard. Mais si on regarde ça juste comme ça, ça serait quasiment décourageant de dire, ben écoute, vas-y, il n'y a pas... Mais là, j'arrive avec mon point au niveau de l'Évangile. La victoire, on peut avoir la victoire contre l'apostasie dans les versets 10 à 17. Donc, les versets 10 à 11, Paul encourage Timothée à suivre l'enseignement et le témoignage que Paul a reçu et que Paul a été délivré de toutes les persécutions parce que Paul avait mis sa confiance en Dieu. Peu importe ce qui arrivait, il mettait sa confiance en Dieu. Paul disait à Timothée, il dit, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Donc, Paul revient encore sur ce qu'il avait dit par rapport à l'Évangile qu'il avait reçu de sa mère et de sa grand-mère. Ça avait été transmis de génération en génération et même de Paul lui-même. Il dit, rappelle-toi de qui tu les as reçus. Puis, ultimement, c'est de Dieu qu'on reçoit toutes choses. Et le verset 16 à 17 du chapitre 3, parce qu'on est dans le chapitre 3 maintenant. Les versets 16 à 17, c'est un passage qu'on connaît, qu'on mémorise, mais est-ce qu'on l'étudie, ce verset-là, ces deux versets-là? Hein? Toute écriture
est inspirée de Dieu
et utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Mais pourquoi?
Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre
à toute bonne heure. Hein? Il y a une raison pour laquelle la parole de Dieu, on l'a, c'est une raison pourquoi on a, Dieu nous a laissé ça. Parce qu'elle est utile pour, elle est comme notre boussole, elle nous enseigne comment vivre selon Dieu, afin qu'on soit propre et accompli, propre à toute bonne œuvre. Donc, il y a toujours une raison. Et il n'encourage pas Timothée à rester attaché aux Écritures. Parce que c'est ça qui est important. Paul était attaché aux Écritures et il était attaché à Dieu. Et au chapitre 4, la prédication de l'homme de Dieu, donc le devoir de prêcher. Paul s'adresse à Timothée de prêcher. Il doit prêcher. Parce que dans les versets 1 à 2, on voit que Paul supplie Timothée, « Je t'en conjure. » C'est comme, « Je t'en supplie, prêche la parole avec insistance. » Car il y a un jugement à venir. Paul voyait l'urgence à cette époque-là. Là, on parle en l'an 66-67 après Jésus-Christ. On est rendu en 2025. L'urgence est encore plus là, parce qu'on est encore plus proche du retour de Christ. Il va y avoir le jugement final. Les gens vont aller en enfer s'ils ne prennent pas Dieu, puis s'ils acceptent Christ dans leur vie, ils vont aller dans la présence de Dieu. Et Paul exhorte Timothée à prêcher, il encourage Timothée. Paul, il indique aussi comment prêcher. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Donc, peu importe ce que les gens vont dire, ce qu'ils vont, ils vont accepter ou ils vont rejeter, ils vont se moquer, prêche. Reprends. Va vers ton frère, ta sœur, reprends, censure, exhorte, mais avec douceur et en instruisant. Parce que si tu rentres dans ton frère, dans ton sœur, dans ta sœur, tu dis, hey, là, c'est pas correct, c'est ici, c'est ça. Non. Tu vas avec douceur. Hey, mon frère, ma sœur, je pense, je vois que tes actions ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire? Donc, tu l'enseignes, tu lui fais prendre conscience, et souvent, ils savent, ils sont au courant de leur comportement, mais tu les ramènes avec amour vers l'Évangile, en leur enseignant. Donc, Paul encourage Timothée de prêcher la parole de cette façon-là. Dans les versets 3 à 5 du chapitre 4, Paul insiste sur la nécessité de prêcher, comme je disais, avec l'urgence. Il voyait l'urgence. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine au verset 3. Hein? Les gens ne voudront plus entendre parler. Et on regarde ça, là, aujourd'hui, c'est encore plus flagrant. C'est plus flagrant. Je parlais avec quelqu'un hier, puis qui disait que dans son école, il y a un enseignant qui est un drag queen. Et il s'est rendu dans les écoles. Et on enseigne à accepter la différence. que maintenant, aujourd'hui, l'idéologie, c'est ouvert, c'est libre, il ne faut pas restreindre ça. Donc, puis cette personne-là, ce professeur-là, enseigne ça. Il dit aux étudiants, fait qu'on laisse rentrer ça, mais on sort tout ce qui est religieux. On ne parle plus de Dieu, on ne parle plus de Jésus. On sort ça des écoles. Donc, les gens ne veulent plus entendre ça. Et c'est vraiment l'urgence que Paul... les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Hein? Les gens n'aiment pas se faire reprendre, entendre des choses moralisateurs, mais des choses qui le font du bien. Et si Paul adresse ça, c'est que probablement que c'était aussi à l'intérieur de l'église d'Éphèse. Et il y a certaines de nos églises qui glissent dans ce chemin-là. Et c'est pernicieux, parce qu'à un moment donné, c'est que tu te détournes de l'Évangile pour devenir une église attractionnelle, une église qui te flatte. Mais l'Évangile, c'est un Évangile qui juge, qui redresse, qui sonde nos cœurs, qui révèle nos cœurs. Donc, les hommes vont vouloir entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Donc, ils vont vouloir avoir des gens qui vont leur dire des choses qu'ils aiment. Et ça me rappelle juste quand Moïse était sur le mont Sinaï, qui, à un moment donné, le peuple demande à Pharaon, à Aaron, de faire un veau d'or. Mais là, eux autres, ils voulaient avoir quelque chose de visuel. Parce que Dieu, c'était un Dieu un peu nébuleux, puis Moïse, bien là, il était fort descendu. Puis là, bien, Dieu, qui était puissant, qui les a fait sortir d'Égypte, bien là, ils l'ont mis de côté, puis là, ben, le veau d'or, maintenant, c'est lui qu'on va adorer, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Wow! Mais aujourd'hui, les gens, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir les choses qui leur font plaisir, pas les choses qui vont leur frotter des oreilles. Et moi, je me rappelle, là, dans le temps à l'école, là, j'ai pas toujours été sage à l'école, puis je me suis fait souvent claquer les doigts, là, tu sais, puis mais aujourd'hui, puis même, tu sais, t'apprendre par l'oreille, puis t'amener dans le coin, là. Mais aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Ça fait quelle sorte de société aujourd'hui dans les écoles? Mon épouse a enseigné dans une école chrétienne. Mais on voit quel genre de société dans laquelle on est rendu. C'est épuisant, c'est même des fois dangereux d'être dans une école puis enseigner. Les élèves, même les petits, piquent les professeurs puis tout ça, puis ils savent, touche-moi pas parce que je te déclare à DPJ. Ils connaissent déjà le droit. Wow!
Il n'y a pas le droit.
C'est ça qui tu n'as plus de droit.
C'est les mots qui l'apprennent.
Et c'est ça. Donc, les parents laissent libre, laissent les enfants libres, vivre et laisser vivre. Et ils donnent le contrat aux parents, non seulement d'enseigner, mais d'éduquer les enfants. Pourtant, l'éducation devrait revenir aux parents et les parents. Et les enseignants devraient être là pour enseigner. Mais non, les enseignants passent des fois plus de temps à éduquer l'enfant qu'à enseigner. Ça devient difficile.
Ils veulent s'enlever de la responsabilité. Les parents, ils veulent s'enlever de la responsabilité. Ils n'ont pas le temps.
Ils n'ont pas le temps, mais c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps.
C'est ça.
Ils ne prennent pas le temps. Parce que justement, ils veulent avoir du temps pour eux, pour faire ce qui leur plaît.
Regardez la société qui s'appelle. Voyez-vous la société qui s'appelle.
C'est ça, hein? Une société de consommation. Hein? Les gens veulent avoir plus, plus, plus. Puis plus tu as, bien plus il faut que tu travailles. Plus tu as d'argent, mais plus tu en dépenses. Plus tu en dépenses, mais plus tu as besoin de travailler pour avoir l'argent pour garder ton train de vie. Fait que les gens veulent, dans le plaisir, dans la luxure, un paquet de choses, les gens veulent. Ne veulent plus maintenant de l'Évangile. Ils ne veulent plus avoir la vérité.
Je vais te dire une chose, c'est horrible, mais ça va vous choquer. Il y a des enfants, ça commence au Canada, il y a des enfants qui sont exposés très tôt à la pornographie. À l'âge de 10 ans, ils sont capables d'aller sur Playboy, sur Internet, voir de la pornographie.
Mm-hmm.
Moi, ça n'existait pas à mon époque. Il n'y avait pas de YouTube à mon époque.
Mm-hmm.
C'est choquant de savoir que des enfants comme
apprennent
des choses d'éducation sexuelle,
c'est sûr,
qui sont par la pornographie et autres. Et il y a les doctrines LGBT qui veulent infiltrer l'école primaire.
Donc, c'est ça.
Des choses que les enfants ne devraient pas avoir comme ça.
Mais c'est ça, hein, oui, c'est ça. Mais c'est là qu'on voit que le fait de rejeter Dieu, ben ça ouvre la porte à toute autre chose, qui ne glorifie pas Dieu. Donc les gens, ils veulent plus entendre ces choses-là, ils veulent entendre des choses agréables, ils veulent le plaisir, le loisir, et tout ça, hein. Des fois, tu regardes la télévision, puis elle fait pas plaisir, acheter aujourd'hui, payer demain, payer... Mais les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que s'ils ne payent pas demain, mais ils, vous payez dans un an, mais s'ils ne sont pas en train de payer dans un an, mais ils payent des intérêts rétroactifs sur leur rachat initial de la date. Fait, les gens s'endettent. Souvent, les gens, les cartes de crédit, hein, on veut se faire plaisir, on n'est plus capable d'attendre, on l'achète tout de suite et on paye le minimum. Wow! À un moment donné, je regarde ça, là, puis... sur la carte de crédit, ça disait, bon, ben, qu'un paiement, si tu rajoutes rien, puis que tu donnes juste le minimum, ben, ça va te prendre 6 ans ou 7 ans à payer juste le montant que tu as là, puis c'était pas un montant faramineux, là. Fait que, tu sais, les gens, ils veulent plus attendre, les gens veulent se faire plaisir. Et certains donnent tellement la facilité pour aller vers là. Et tu vas te poser la question, oh, j'en ai-tu vraiment besoin? Là, tu poses la question, puis certains disent, ah oui, pas grave, là, tu vas te payer, puis c'est pas toi qui payes, mais tes enfants vont payer plus tard. On déresponsabilise. Fait aujourd'hui, c'est ça. Fait que Paul encourage Timothée à enseigner, mais avec douceur, en instruisant, parce que il voit, Paul est au courant, il entend qu'est-ce qui se passe dans la société. Il voit comment ça se passe dans le monde, et même dans l'Église. Dans l'Église, ça va pas bien à Éphèse. Ils ont besoin d'être redressés, ils ont besoin d'être enseignés, parce que c'est pas nécessairement à l'extérieur, c'est pas l'adresse ça, c'est pas parce que ça se passe nécessairement à l'extérieur de l'Église, c'est que ça se passe aussi à l'intérieur dans l'Église. Fait qu'il faut veiller les uns sur les autres. C'est pour ça que nos pasteurs, nos anciens, quand ils enseignent la vérité. Ils enseignent aussi les jugements, ils enseignent les conséquences. Si tu désobéis, ben voilà ce qui va arriver. Mais si tu obéis, voilà aussi ce qui va arriver. Donc, il y a des bénédictions, mais il y a des conséquences. Donc, les deux sont enseignés. Puis, dans notre, quand on prêche, quand on évangile, quand on évangélise, il ne faut pas avoir peur d'annoncer ces deux choses-là, le jugement et la bonne nouvelle. Parce que sans jugement, il n'y a pas nécessairement de bonne nouvelle. Ça, on entend ça. Donc ça, c'est ce qui se passait à l'époque de l'Église d'Éphèse. Et le cœur de l'homme, comme je mentionnais, n'a pas changé aujourd'hui. Il est le même. Il est méchant. Il est tortueux. Oui, pire. Puis Paul termine en encourageant Timothée à être sobre en toutes choses. Donc, pourquoi Paul a dit ça? C'est parce que sois un exemple. Parce que si si tu ne fais pas ce que tu enseignes, ce que tu dis, hein, on dit ça, hein, que tes actions parlent tellement fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Fait que Paul encourage et exhorte Timothée à être sobre en toutes choses, au verset 5 du chapitre 4. Supporte les souffrances. T'sais, arrête de te plaindre quand c'est difficile. Arrête de te plaindre. Supporte-les. Amène-les devant Dieu, Puis Dieu va prendre soin de toi. Dieu va te supporter. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Annonce l'évangile. Tu sais, dans Matthieu, il dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom de Père, et enseignez-leur tout ce qui est, tout ce que je vous ai prescrit. » Paul dit à Timothée, « Bien, fais-le d'un évangéliste. Annonce la bonne nouvelle. Annonce le jugement. Annonce les conséquences. Puis les bénédictions d'un côté ou de l'autre. Et remplis bien ton ministère. Fais bien ton ministère. » M'en est dans notre cellule, on parlait des dons, mais j'ai posé la question, mais qu'est-ce que signifie rechercher le don le meilleur? C'est quoi le don le meilleur? Est-ce que c'est d'être en avant, prêcher, diriger la louange et tout ça? Non, rechercher le don le meilleur, c'est mais en pratique, le don que Dieu t'a donné de la meilleure façon que tu peux. La meilleure façon. C'est ça, le don de meilleur. Que tu t'es donné le don de faire le ménage, notons ici dans l'Église. Mais fais-le pour la gloire de Dieu. Tu sers Dieu. Le don que Dieu t'a donné, mais c'est pour servir les frères et sœurs dans l'Église. C'est pas pour te servir toi. Paul encourage Timothée, il exhorte Timothée à bien remplir son ministère. Donc, il va y avoir des moments de découragement. Tu vois, comme moi, cette semaine, dimanche passé, j'étais un peu découragé quand je voyais la semaine qui s'en venait et qu'est-ce que j'avais devant moi à faire, des études à préparer. J'avais 3 études à préparer. Puis à un moment donné, je dis, oh, boy, comment je vais. J'ai eu un moment de découragement. Mais on a des frères et sœurs. J'ai été vers les frères et sœurs, vers des frères. Et il y a un frère qui a accepté de prendre un enseignement à ma place. C'est, ouf! J'ai dit, là, ça fait du bien. Là. C'est comme, je me sens un peu plus soulagé. Puis après ça, ben là, j'avais l'étude pour ce matin à préparer. Hey, comment est-ce que je vais y arriver? Là, j'ai de la visite qui arrive lundi pour être là toute la journée. Là, je voyais la semaine s'effriter. Mais c'est vous que si on regarde aux choses difficiles, on oublie qu'on a un grand Dieu. À partir du moment où j'ai mis ça devant Dieu, je dis, Seigneur, c'est toi qui vas aplanir le chemin, qui va arriver. Et finalement, je suis là ce matin. J'ai préparé mes 2 autres études, celui pour ce matin et celui de vendredi. Et hier, j'étais à l'Assemblée générale de notre association. Donc, Dieu, quand on se met en lui, on est capable de bien remplir notre ministère, le ministère que Dieu nous donne. Et le ministère que Timothée avait, mais c'est lui qui était en charge de l'église d'Éphèse. C'est lui qui était le pasteur. Donc, sois un modèle. Hein? Sois savant en toutes choses. Supporte tes souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Paul encourageait Timothée. Parce que Paul, il savait qu'est-ce que Timothée subissait, parce que Paul a subi des persécutions lui aussi. Et ce texte-là a été écrit justement dans son 2e emprisonnement, et en plus, là, il s'en allait vers la mort. Il était pour être exécuté à cause de sa foi. Mais Paul ne se décourageait pas, hein? Même en prison, à un moment donné, il se met à chanter. Qu'est-ce qui est arrivé? Les portes de la prison sont ouvertes. Paul était dans la joie, même en prison. Il louait son sauveur. Fait que c'est ça, Paul, il termine sa lettre en annonçant à Timothée qu'il va bientôt mourir. Et je l'ai lu au début, hein, qu'il annonce sa mort, qu'il va bientôt partir. Et il a achevé la course. Il a bien fini la course. Mon frère, ma sœur, peu importe le don que Dieu t'a donné, est-ce que tu vas bien achever la course? Est-ce que tu vas exercer ton ministère jusqu'à la fin?
Et vous savez, des fois, il peut y avoir quelqu'un, juste pour revenir un peu en arrière, il peut y avoir quelqu'un qui va venir vous voir, un frère ou une sœur qui va venir vous voir. C'est-à-dire, hey, écoute, ça veut dire que j'ai besoin d'aide aujourd'hui et je vois que tu serais capable de faire ça. Tu viendrais-tu m'aider, tu sais, pour le faire? Peu importe qui que ce soit, comment tu vas répondre? Est-ce que tu vas répondre à l'appel et tu vas dire oui, je vais venir t'aider? Vous savez, on n'a pas besoin de faire de grandes choses dans l'Église pour servir l'Église, pour bien remplir notre ministère. C'est un ministère, ça peut être un ministère de service, juste aider l'autre. Vous savez, moi, je ne suis pas un bon premier dans l'Église. Je suis un bon deuxième. Dis-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse et je vais faire de mon mieux pour le faire. Tu as besoin d'aide? Je vais le faire. Je vais y aller. Ça ne sera peut-être pas parfait, mais je vais le faire. Et la personne qui est avec toi, ben, il va t'aider peut-être à mieux le faire. Mais cherche à faire de ton mieux. Cherche à servir le Seigneur de ton mieux. Et c'est ce que Paul exhortait Timothée ou encourageait Timothée à faire, d'exercer son ministère avec excellence. On a un Dieu d'excellence. Offrons-lui l'excellence. Pas la perfection, mais donnons-nous entièrement, avec excellence. Tu sais, tu es assis devant ta télé, tu regardes une bonne game de baseball, là, puis là, tu relaxes, tu sors ton téléphone. Hey, je suis en panne, est-ce que tu voudrais venir m'aider, là, tout ça?
Bien sûr. Oui.
C'est ça que devrait être notre réponse. Bien sûr, oui, j'arrive tout de suite. Oui, j'arrive tout de suite. On devrait avoir un zèle pour servir Dieu. Et c'est ce que Paul encourage Timothée à faire, de servir avec zèle, malgré les persécutions, malgré les tensions qu'il subit à l'Église d'Éphèse. Continuons à servir. Ici, à l'Église Emmanuel, il y en a eu des tensions. Mais nos dirigeants ont su continuer à servir avec excellence. Ils ont donné le meilleur. Et c'est la même chose dans nos vies. On va avoir des persécutions, on va avoir des moments difficiles. Mais regardons à notre Dieu d'excellence. Servons-le avec excellence. Même si c'était juste aller visiter une personne. Hein? Visiter une personne. Prendre de ses nouvelles. Un coup de téléphone. Comment ça va? Un texto. Hey, comment ça va? Je prie pour toi. Prends soin les uns des autres. Donc, frère et soeur, comme Paul encourageait et exhortait Timothée à donner le mieux de lui-même, à servir du mieux avec excellence, servons notre Dieu d'excellence. On va célébrer notre 40e anniversaire. Le Dieu d'excellence a permis qu'on soit là encore tout au long de ces 40 années-là. Et ça, c'est grâce à chacun de nous ici, à chacun de nos prédécesseurs, et aussi pour ceux qui vont venir après, peut-être pour les 40, 50, les 100 années à venir, ou peut-être pour les 2 ans, on ne sait pas. Mais Dieu, on a un Dieu excellent, servons-le avec excellence, et Paul, il encourageait Timothée encore, comme je disais, à servir avec expérience. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager ce matin, que Dieu bénisse sa parole, et terminons par la prière. Père éternel, Seigneur grand Dieu, oui, merci pour ton amour, pour tes bontés, pour ta fidélité. Merci parce que tu es un Dieu parfait, un Dieu puissant en qui on peut s'appuyer, on peut mettre toute notre confiance. Oui, Père, c'est toi qui nous relèves quand on est faible. Et C'est quand on est faible, c'est là qu'on est fort, parce que c'est, on va avec la force qui est en nous, et la force est dans le sang de Christ. Par aide-nous à te servir avec zèle, à fuir les mondanités et te servir avec excellence, et qu'on puisse partager la parole et réaliser l'urgence qui s'en vient. Seigneur, garde-nous fidèles à toi, que nos regards puissent être tournés vers toi, que ta parole puisse être notre trésor, et donne-nous, Seigneur, de marcher par la foi, affirmer la foi de chacun. Prépare nos cœurs maintenant à entendre ta parole, ce que tu auras à nous dire pendant le culte d'adoration, et remplis nos cœurs, Seigneur, aujourd'hui. Et c'est ton nom, ton Fils Jésus, qu'on te prie pour ta gloire. Amen.